Vous écoutez On lit pour vous.
Le secret du bonheur. Un texte de Raphaël Corbeil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Le bonheur, ça se vit avec les autres, mais pas sur les réseaux sociaux, constate un rapport mondial sur le sujet. Chaque année depuis 2012, le World Happiness Report dresse un portrait du bien-être en classant les pays selon le niveau de satisfaction de vie de leur population. Publié par le Wellbeing Research Center de l'Université d'Oxford, en collaboration avec plusieurs institutions internationales, ce rapport s'appuie sur de vastes enquêtes et mobilise économistes, psychologues et autres spécialistes pour analyser ce qui influence le bonheur. Au cœur de la démarche, une question simple posée à des milliers de personnes. À quel point êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre vie? Au fil des années, le rapport s'est imposé comme une référence, en montrant que le bien-être ne dépend pas uniquement de la richesse, mais aussi de facteurs comme les relations sociales, la confiance envers ses compatriotes et le sentiment d'appartenance. Nous en avons discuté avec Christopher Barrington Lee, professeur en économie et en environnement à l'Université McGill, spécialiste de l'économie du bien-être. Il a contribué au rapport comme auteur d'un chapitre en 2022 et agit régulièrement à titre de réviseur scientifique externe. Québec Science. Comment mesure-t-on le bonheur scientifiquement? Christopher Barrington Lee. Toute bonne science commence par des définitions claires. En économie, le bonheur désigne généralement la satisfaction de vie déclarée par les individus. Cela repose sur une seule question d'enquête issue du Gallup World Poll. En tenant compte de tous les aspects de votre vie, dans quelle mesure êtes-vous satisfait, satisfaite de votre vie sur une échelle de 0 à 10? Cette question sert à évaluer la qualité de vie globale et non les émotions du moment. Mais ensuite, tout est dans l'interprétation. Qu'est-ce que les gens veulent dire exactement? Le travail scientifique consiste à comprendre les variables qui influencent les réponses avec des méthodes statistiques. On utilise pour cela d'autres informations issues des enquêtes. Des questions mesurent aussi les états émotionnels plus temporaires, comme « Vous sentiez-vous de bonne humeur hier? » Nous apprenons beaucoup de choses sur les gens grâce à ce sondage et aussi à partir d'autres éléments, comme leur lieu de résidence. Québec Science. Quels sont les facteurs qui influencent le bonheur? Christopher Barrington Lee. Tout a une incidence sur le bonheur. La question est de savoir dans quelle mesure. Ce que montrent des décennies de recherches, c'est que les êtres humains sont des êtres profondément sociaux. Les facteurs les plus déterminants concernent donc nos relations avec les autres. Cela inclut les proches, mais aussi les inconnus et les personnes qui exercent du pouvoir sur nous. Prenons l'exemple du travail, où nous passons beaucoup de temps. La confiance que l'on accorde à ses collègues, à ses supérieurs, à son entreprise, mais aussi aux institutions joue un rôle central. Plusieurs questions permettent de mesurer ce degré de confiance. Le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire l'impression d'avoir sa place dans la société, est également mesuré. Cela a aussi un fort pouvoir prédictif. Nous examinons ensuite des mesures plus objectives liées aux interactions sociales. Combien de temps passez-vous avec votre famille? Prenez-vous vos repas avec quelqu'un? De manière plus fondamentale, une grande part du bonheur repose sur le fait de se sentir aimé et utile. À côté de ça, on veut se sentir en sécurité et, évidemment, ne pas souffrir. La santé et la sécurité constituent donc également des facteurs importants. Au départ, les économistes se sont beaucoup concentrés sur le revenu. Et il est important si on ne mesure rien d'autre. Mais dès qu'on inclut ces variables sociales, le revenu perd de son importance. Des recherches montrent même que certains groupes peu intégrés à l'économie de marché peuvent être très heureux. Québec Science. La Finlande se classe en tête pour la 9e année d'affilée, aux côtés des autres pays nordiques. Pourquoi les pays nordiques obtiennent-ils de manière récurrente d'aussi bons résultats? Christopher Barrington Lee. On y vit dans un climat de grande confiance et, de manière générale, avec un niveau élevé d'interaction sociale. À cela s'ajoute une grande sécurité, un niveau de richesse élevé et de solides systèmes de soutien social qui apportent un sentiment d'appartenance et d'identité commune. Dans ces sociétés où l'on considère que chacun veille sur les autres, où l'on accepte que la vie comporte des hauts et des bas et que les individus partent avec des chances inégales dès la naissance, mais où l'on choisit malgré tout de soutenir chaque personne avec dignité, il y a un socle plus solide d'identité collective. Ce sont des éléments que l'on retrouve dans les pays nordiques et qui correspondent à la conception du bien-être dans la recherche. Québec Science. Comment expliquer le bon classement du Costa Rica malgré un PIB relativement modeste? Christopher Barrington Lee. Il convient de souligner que le Costa Rica n'est pas un pays pauvre et qu'il a beaucoup investi dans l'environnement, l'éducation et la qualité de vie. Mais il existe tout de même un paradoxe latino-américain. Les niveaux de bonheur y sont plus élevés, sans qu'on puisse l'expliquer avec les données dont on dispose. Les questionnaires passent probablement à côté de certaines variables. De manière informelle, on peut penser à l'importance de la famille, mais aussi à des éléments culturels comme la musique et la danse, qui rassemblent les gens au-delà des clivages sociaux. Encore une fois, cela montre que le revenu ne fait pas tout. Il existe plusieurs façons de construire une société épanouie et heureuse. Québec Science. Le Canada continue sa dégringolade et se retrouve à la 25e place du classement, alors qu'il figure habituellement parmi les 20 premiers. Comment interpréter ce recul? Christopher Barrington Lee. La première question, c'est « Pourquoi cette baisse si marquée ne figure-t-elle pas à l'ordre du jour de tous les responsables politiques? » L'ampleur de ce déclin est d'une gravité stupéfiante. Le Canada figure parmi les pays où la baisse a été la plus importante au cours de la dernière décennie. C'est un signal sérieux qui devrait susciter beaucoup plus d'attention, parce qu'il reflète probablement des transformations profondes. Dans les faits, qui précisément devient moins heureux? On observe que les personnes qui souffrent le plus, ce sont les jeunes. C'est le changement le plus marquant au Canada. Les jeunes sont aujourd'hui nettement moins heureux qu'avant. Auparavant, les jeunes et les personnes âgées avaient des niveaux plus élevés de bonheur, avec un creux au milieu de la vie, la fameuse courbe en U. Aujourd'hui, les gens sortent de l'enfance et commencent leur vie en étant malheureux. C'est terrible. Vous écoutez « Le secret du bonheur », un texte de Raphaël Corbeil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Avec l'IA, le monde pourrait changer au point d'être méconnaissable d'ici quelques années. Québec Science. Pourquoi? Christopher Barrington Lee. C'est encore en partie des conjectures, mais il y a des facteurs économiques en jeu. Si vous entrez dans l'âge adulte aujourd'hui, il est difficile de savoir combien de temps il vous faudra pour atteindre le même niveau de vie que vos parents. C'est une nouveauté. Il y a bien sûr la question du prix des logements, mais aussi une incertitude croissante sur le marché du travail. L'intelligence artificielle bouleverse tout. Est-ce toujours une bonne idée de devenir avocat, journaliste? On ne sait plus vraiment. Certains scientifiques pensent que le monde va changer au point d'être méconnaissable d'ici quelques années et que ça va se passer extrêmement vite. Il y a ensuite les réseaux sociaux, sur lesquels le rapport mondial sur le bonheur s'est d'ailleurs concentré cette année. Et c'est vraiment inquiétant. On est tous exposés à des formes de manipulation. Le déclin du bien-être des jeunes est un phénomène surtout observé dans les pays occidentaux anglophones. Et dans les pays où le bien-être des jeunes diminue, le lien négatif entre bonheur et usage des réseaux sociaux est nettement plus fort. Québec Science. Pourquoi les réseaux sociaux auraient-ils un impact plus négatif dans les pays anglophones qu'ailleurs? Christopher Barrington Lee. C'est justement une question sur laquelle le rapport s'est penché. Dans les pays anglophones, L'utilisation intensive des réseaux sociaux, et plus particulièrement ceux basés sur des flux algorithmiques très visuels avec une forte présence d'influenceurs, est associée à un plus faible niveau de bien-être. Une des hypothèses concerne l'environnement numérique plus polarisant en anglais. Au Canada, nous sommes d'ailleurs devenus plus polarisés ces dernières années, tout comme aux États-Unis. Il existe toutefois des contextes où les réseaux sociaux peuvent, dans une certaine mesure, rapprocher les gens, notamment lorsqu'ils facilitent des rencontres réelles ou contribuent à entretenir des liens existants. Ce type d'usage paraît d'ailleurs plus fréquent en Amérique latine, où on observe une utilisation plus importante des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, par opposition à des usages plus centrés sur des fils algorithmiques de contenu. Québec Science. Si l'on considère uniquement le Québec, ce serait l'un des endroits les plus heureux au monde. Comment expliquer cet écart avec le reste du Canada? Christopher Barrington Lee. Quand on regarde les données sur le long terme, on voit un renversement assez spectaculaire. Au début des années 1980, le Québec était moins heureux que n'importe quelle autre province du Canada. De beaucoup. Puis, son classement s'est amélioré de façon constante au fil des ans, jusqu'à dépasser la moyenne canadienne, et même, récemment, celle des provinces atlantiques, pourtant parmi les plus heureuses. Cette hausse ne s'explique pas vraiment par les facteurs économiques classiques, ni les revenus, ni les inégalités. Le Québec ressemble à certains égards davantage aux pays nordiques par son filet social et par une culture où l'on valorise le fait de résoudre les problèmes collectivement. On peut aussi penser à l'effet de politiques concrètes, comme le soutien aux femmes et aux familles, les garderies, les congés parentaux, ou encore une plus grande flexibilité dans les normes sociales, notamment autour du mariage, qui est un autre point commun avec la Scandinavie. Cela dit, il reste difficile d'établir des liens de causalité clairs. Chez les jeunes, il y a aussi des pistes. Une différence importante, c'est la langue. Le Québec est moins exposé à certains contenus anglophones très présents sur les réseaux sociaux. La singularité culturelle du Québec contribue probablement aussi au sentiment d'appartenance. Québec Science. Selon vous, comment la recherche sur le bonheur peut-elle influencer les politiques publiques? Et quelles devraient être les priorités aujourd'hui? Christopher Barrington Lee. Le rapport attire chaque année beaucoup d'attention. Mais pour qu'il ait un impact, il faudrait que le bien-être devienne une attente claire envers les gouvernements. Aujourd'hui, on n'attribue pas spontanément à l'État le rôle d'améliorer la qualité de vie. Mais si cette attente s'installe, cela pourrait transformer la manière de gouverner. Pensons à la couverture médicale universelle. Ce n'est pas quelque chose que les gens exigeaient avant que cela soit proposé. Aujourd'hui, c'est perçu comme une responsabilité essentielle de l'État. Qu'il s'agisse d'investir dans le logement, de réfléchir au développement urbain, à l'éducation, à la répartition des fonds dans le domaine de la santé, toutes les politiques ont une incidence sur le bien-être. Il faut donc les évaluer sous cet angle. Le Canada s'engage déjà dans cette voie. On commence à mesurer la satisfaction de vie et à l'intégrer dans les choix budgétaires. Il s'agit maintenant de renforcer les outils et la capacité à utiliser ces nouvelles données scientifiques pour guider les politiques. Ensuite, sur les priorités concrètes, il n'y a pas de recette simple, mais certaines pistes se dégagent. Une des mesures les plus évidentes et peu coûteuses consiste à accorder une priorité bien plus élevée à la santé mentale. Ensuite, soutenir les initiatives communautaires qui renforcent les liens et le tissu social. Mais le levier le plus profond, c'est probablement l'éducation. Pas seulement les compétences techniques ou cognitives, mais aussi les compétences sociales et émotionnelles, qui sont un élément essentiel du bien-être. Savoir gérer les relations, les conflits, prendre soin de soi. On a beaucoup de données scientifiques là-dessus, mais on les enseigne très peu. Et ça ne devrait pas s'arrêter à l'école. Il y a un énorme manque d'éducation tout au long de la vie. Comment, par exemple, être un bon mari quand on vieillit? Comment être un bon parent? Comment gérer la transition vers la retraite? Nous disposons de nombreuses données pour que cela se passe bien, et nous n'offrons pas cette éducation publique. C'est là un domaine politique majeur. Plus d'éducation, et ce, tout au long de la vie. C'était « Le secret du bonheur », un texte de Raphaël Corbeil paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
Vénus tourne à l'envers. Une catastrophe cosmique pourrait enfin expliquer pourquoi. Un texte de Gaspard Salomon paru le 16 juin 2026 dans Futura Science. Vénus est la seule planète du système solaire à tourner aussi lentement et dans le sens opposé à celui de la plupart de ses voisines. Selon une nouvelle étude, cette étrange rotation pourrait être l'héritage d'un impact titanesque survenu au début du système solaire. Sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. La planète tourne dans le sens opposé à celui de la plupart des autres planètes du système solaire et si lentement qu'une journée y dure plus longtemps qu'une année, et cette rotation hors norme intrigue les astronomes depuis des décennies. Souvent présentée comme la jumelle infernale de la Terre, Vénus possède pourtant de nombreux points communs avec notre planète. Son diamètre est proche de celui de la Terre, sa masse comparable et sa composition essentiellement rocheuse. Mais là où la Terre est devenue un monde habitable, Vénus a évolué vers un environnement extrême, recouvert d'une atmosphère dense de dioxyde de carbone, et soumis à des températures de surface dépassant les 460 degrés Celsius, où même le plomb pourrait fondre. Sa rotation constitue l'une de ses caractéristiques les plus mystérieuses. Alors que la plupart des planètes tournent dans le même sens que leur révolution autour du Soleil, Vénus effectue une rotation dite rétrograde. Plus étonnant encore, un jour vénusien dure 243 jours terrestres, contre seulement 225 jours pour son année. Autrement dit, la planète met plus de temps à tourner sur elle-même qu'à effectuer une orbite complète autour du Soleil. Une journée vénusienne dure plus longtemps qu'une année. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs tentent de comprendre l'origine de cette anomalie. Parmi les explications avancées figurent les effets des marées gravitationnelles exercées par le Soleil, l'influence de son atmosphère exceptionnellement massive ou encore les conséquences d'une ou plusieurs collisions géantes survenues durant la formation de la planète. Une jeune Vénus percutée par un corps de la taille de la Lune ou de Mars. Pour tester cette dernière hypothèse, une équipe menée par Cédric Gilman de l'École polytechnique fédérale de Zurich a réalisé une vaste série de simulations numériques de collisions entre une proto-Vénus et de différents corps célestes. Il a présenté son étude lors de l'Assemblée générale 2026 de l'Union européenne des géosciences, EGU, qui suggère qu'un impact géant survenu pendant les prémices du système solaire pourrait être à l'origine de cette singularité grâce à des simulations qui ont exploré de nombreuses configurations. Masse de l'impacteur, vitesse de collision, angle d'impact ou encore vitesse de rotation initiale de Vénus. Certains scénarios impliquent des objets représentant jusqu'à 10 % de la masse terrestre, soit des corps comparables à la Lune. Dans plusieurs cas, ces impacteurs frappent la jeune planète à des vitesses supérieures à une vingtaine de kilomètres par seconde, libérant une énergie colossale. Le résultat montre qu'un large éventail de collisions est capable de produire une planète présentant des caractéristiques proches de celles observées aujourd'hui. Les impacts frontaux sur une Vénus, peu ou pas rotative, mais aussi certaines collisions obliques avec des corps plus massifs, conduisent à des états compatibles avec sa rotation actuelle extrêmement lente. Les simulations révèlent également que ces impacts génèrent relativement peu de débris en orbite. La majeure partie de la matière éjectée resterait à l'intérieur de l'orbite synchrone de la planète avant de retomber à sa surface. Cette caractéristique pourrait expliquer pourquoi Vénus ne possède aujourd'hui aucun satellite naturel, contrairement à la Terre, dont la Lune est probablement née d'un impact géant. Une hypothèse crédible, mais pas encore définitive. Les chercheurs se sont également intéressés aux conséquences internes de ces collisions. Dans les scénarios les plus forts ou énergétiques, le choc engendre un immense océan de magma à la surface et fait fondre une large fraction du manteau. Une quantité considérable d'énergie est aussi transférée jusqu'au noyau de la planète dont la température peut atteindre plusieurs milliers de degrés. Cette chaleur supplémentaire alimente ensuite de puissants mouvements de convection à l'intérieur de Vénus pendant des dizaines de milliers d'années. Ces effets finissent toutefois par s'estomper. D'après les simulations, après quelques centaines de millions d'années, l'évolution thermique d'une Vénus ayant subi un impact géant devient difficile à distinguer de celle d'une planète n'ayant jamais connu un tel événement. L'intérêt principal de l'étude réside en fait surtout dans sa capacité à expliquer certaines propriétés orbitales et rotationnelles de la planète. Les résultats montrent qu'un impact géant pourrait simultanément rendre compte de deux caractéristiques majeures de Vénus : sa rotation extrêmement lente et l'absence de satellites naturels. Pour autant, l'énigme est loin d'être résolue. Depuis plusieurs années, d'autres travaux suggèrent que la rotation actuelle de Vénus pourrait résulter d'un mécanisme plus progressif. Les marées gravitationnelles exercées par le Soleil et, surtout, les marées atmosphériques générées par son épaisse enveloppe gazeuse pourraient avoir ralenti puis inversé la rotation de la planète au fil du temps. Dans ce scénario, aucun impact géant n'est nécessaire. La nouvelle étude ne réfute pas ces hypothèses concurrentes, mais montre plutôt qu'une collision géante constitue une explication physiquement plausible, capable de reproduire plusieurs caractéristiques observées aujourd'hui. Les futures missions vers Vénus, qui doivent étudier sa structure interne, sa géologie et son histoire thermique avec une précision inédite, pourraient permettre de départager ces différents scénarios. Si cette hypothèse se confirme, la rotation étrange de Vénus apparaîtra peut-être comme la cicatrice encore visible d'une catastrophe survenue il y a plus de 4 milliards d'années. Un événement qui aurait suffi à séparer durablement le destin de deux planètes pourtant jumelles, la Terre et Vénus. C'était « Vénus tourne à l'envers, une catastrophe cosmique » pourrait enfin expliquer pourquoi. Un texte de Gaspard Salomon, paru le 16 juin 2026, dans Futura Science.
Des antiviraux cachés dans des plantes. Un texte d'Emma Hériac, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. En recherche, il faut savoir voir au-delà de l'évidence. C'est ce qu'a fait l'équipe de Michel Chrétien à l'Institut de recherche clinique de Montréal en dénichant une nouvelle famille d'antiviraux naturels, prometteurs contre le virus Ebola et le virus de la COVID-19, entre autres. L'étude a été publiée dans le Journal of Natural Products en mars 2026. Il y a une dizaine d'années, le docteur Michel Chrétien et le biochimiste Majambo MBK se sont intéressés à un extrait de moringa, une plante originaire d'Inde, et à ses propriétés anti-cholestérol. L'extrait en question contient 90 % d'isocarcétine, un antioxydant présent dans plusieurs plantes, qui a aussi montré une certaine activité anti-inflammatoire et antivirale. Curieuse, l'équipe a soumis cet extrait au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, où on manipule les micro-organismes les plus dangereux. Il a été testé en 2016 sur des souris infectées par des doses létales du virus Ebola, et celles-ci ont toutes survécu. Une surprise, c'est une des expériences les plus impressionnantes de ma carrière, raconte Michel Chrétien. En pleine pandémie, les scientifiques ont ensuite testé leur remède sur des cellules infectées par le virus de la COVID-19. Là encore, la substance a limité l'infection. Par contre, quand l'équipe de Winnipeg a testé un extrait riche en isocarcétine provenant d'une autre source sur des hamsters infectés par le même virus, ça a été un échec complet. De quoi rester perplexe? L'isocarcétine était-elle vraiment antivirale? Ou bien l'extrait de moringa original contenait-il d'autres composés actifs contre les virus? Pour le savoir, direction l'Université de l'Illinois, où le chimiste Guido Paoli a analysé l'extrait. Il y a découvert deux composés, présents en très petite quantité, moins de 3 % et dont l'activité antivirale s'est avérée 25 fois supérieure à celle de l'isocarcétine pure. Ces molécules, nommées dicitriosides, semblent avoir une activité pharmacologique suffisamment forte pour qu'on en fasse des médicaments efficaces, se réjouit le docteur Chrétien. Ce serait une avancée majeure, mais il reste énormément d'étapes. Puisque leurs structures chimiques ont été déterminées, ces composés pourraient être synthétisés en laboratoire, puis testés sur des animaux à Winnipeg, et chez les humains si leur efficacité se confirme. Le mécanisme d'action reste aussi à élucider, mais on pense que ces molécules pourraient fonctionner contre d'autres virus, selon Majambo MBK, étant donné leur efficacité sur les virus très différents que sont Ebola et le SARS-CoV-2. On pourrait alors en faire un médicament d'urgence contre les nouveaux virus, renchérit le docteur Chrétien. À tester contre l'antivirus, peut-être? C'était « Des antiviraux cachés dans des plantes ». Un texte d'Emma Herriac, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.